Voilà. Merci Camille d'avoir condamné à l'enfer toutes les oreilles présentes. Hein. La virgule, c'était Georges Brassens. Je me suis fait tout petit. Sans commentaire. Vraiment sans commentaire. Allez, on respire un bon coup et on revient à la littérature. Le livre que je tiens entre mes mains fait 10 cm d'épaisseur à tout casser. Et pourtant, vous n'auriez pas assez de votre vie tout entière pour le finir. Bah oui, c'est pas la taille qui compte. Pour 100 000 milliards de poèmes, Raymond Queneau, membre de l'Oulipo, a composé 10 sonnets au schéma de rimes identiques. Pour chaque sonnet, les vers sont imprimés au recto sur des bandes de papier individuelles réunies à la tranche, si bien que, en les tournant comme des pages, et je cite la préface de Queneau, « les choses étant ainsi données, chaque vers étant placé sur un volet, il est facile de voir que le lecteur peut composer 10 puissance 14 sonnets différents, soit 100 000 milliards. Pour être plus explicite pour les personnes sceptiques, à chaque premier vers, au nombre de 10, on peut faire correspondre 10 seconds vers différents. Il y a donc 100 combinaisons différentes des deux premiers vers. En y joignant le troisième, il y en aura 1000, et pour les 10 sonnets, complets, de 14 vers, on a donc bien le résultat énoncé plus haut. En comptant 45 secondes pour lire un sonnet et 15 secondes pour changer les volets, à 8 heures par jour, 200 jours par an, on a pour plus d'un million de siècles de lecture, et en lisant toute la journée, 365 jours par an, pour 190 258 751 années plus quelques plombes et broquilles, sans tenir compte des années bissextiles et autres détails. Comme l'a bien dit Lautré Hamon, la poésie doit être faite par tous, non par un. Donc on a composé ensemble un poème avec des jeux de dés, et il y a une probabilité de je ne sais plus combien que ce poème n'ait jamais été lu par personne. Le roi de la pampa retourne sa chemise. Snob un peu sur les bords des bords fondamentaux. Le chauffeur indigène attendait dans la brise. Il donne à la tribu des cris au sens nouveau. Quand on prend des photos de cette tour de Pise, que n'a pas dévoré la horde des mulots ? Le gourmet en salade avale la citise. Elle effraie le Berry comme les morvandillots. Devant la boue urbaine, on retrousse sa cotte. Gratter le parchemin deviendra sa marotte. Lorsque Socrate mort passait pour un lutin. Barde, que tu me plais, toujours tu soliloques. On s'excuse, il n'y a ni baleine ni phoque. Si l'Europe le veut, l'Europe ou son destin. En virgule, un trou noir supermassif de Muse pour représenter ses poèmes infinis à notre échelle. C'est philosophique et tout, alors pourquoi ça sonne sale ? En tout cas, si vous voulez voir à quoi ressemblent ces 100 000 milliards de poèmes, ils sont disponibles à la bibliothèque du site Mono de l'ENS. Et vient maintenant un grand moment dans la brève histoire de l'IO. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Pour la première fois depuis le pilote, je donne le commandement de la discussion à Camille, qui assume la paternité de ce thème et nous guidera à la force d'un seul vers, qui est aussi un poème. Tiré du recueil Alcool, c'est Chantre d'Apollinaire.
Chantre est l'unique cordeau des trompettes marines. Alors, ce poème, c'est bien sûr une provocation d'Apollinaire, puisque comment faire une rime s'il n'y a qu'un seul vers ? Donc comment faire poème s'il n'y a qu'un seul vers ? Donc il y a beaucoup d'analyses qui reposent sur la résonance du vers dans le blanc du texte. Enfin, c'est des choses très intéressantes vraiment. Mais ça reste quand même aussi, on peut aussi le lire comme une blague. Et on va peut-être se poser la question de pourquoi c'est si bon alors que c'est si court en littérature.
J'aime bien la précision en littérature.
C'est une vraie question en fait. Enfin, il y a la différence entre bref et court, puisque court c'est relatif par rapport au long, alors que bref c'est juste une espèce de concision. C'est pas seulement la taille, c'est aussi la manière d'écrire qui repose sur une compression, une densité maximale. J'ai une phrase de Georges Poulet qui disait que la littérature brève était comme une île entourée d'espace et qui s'entoure d'horizons marins. Donc il y a cette idée qu'on a une toute petite forme, l'île, mais qui ouvre à de grands horizons, donc cette sorte de condensation. Et je crois que c'est ce qu'on voit dans les textes qu'on a vus, en particulier dans le haïku, Will, puisque le principe c'est vraiment la forme brève par excellence.
Oui, et c'est un genre extrêmement codifié et qui finalement a une très grande variété. Donc c'est vrai que c'est aussi un peu la puissance évocatoire des mots, etc. Et justement, l'histoire de la concision, ça peut aussi se rapprocher de la micro-nouvelle, puisque l'idée de la micro-nouvelle, c'est justement de raconter le plus d'histoires possible avec le moins de mots. La nouvelle de Augusto Monterroso, elle compte 7 mots. Et pourtant, c'est vrai que ça évoque quand même plusieurs choses, le monde du rêve, le rêve qui interfère avec le réel, etc. Donc oui, il y a aussi cette idée que le court peut être très percutant.
Oui, et puis je trouve que dans les micro-nouvelles, surtout, on a l'impression que ça ouvre une porte, ça ouvre un horizon. Et le dinosaure, il est toujours là, trois petits points. Donc on a vraiment l'impression que c'est à l'imagination du lecteur d'aller compléter, et peut-être ça fait partie du plaisir qu'on a avec une forme brève, c'est qu'on tout nous est pas donné.
Et en même temps, on dirait que tout ce qui est nécessaire est là. Enfin, on a deux personnages, on a un contexte, on a une action continue et une action qui l'interrompt. À un moment, il s'est endormi, maintenant il se réveille, il est encore là. Non, mais je veux dire, c'est vraiment une histoire.
Bon, aujourd'hui, j'ai plein de citations parce que Thomas m'avait beaucoup complexé. Donc, j'ai trouvé une citation d'un auteur qui s'appelle Altenberg, qui a écrit dans Esquisse viennoise. Donc, ça, son ambition, qui est une grande ambition en littérature, qui est de vouloir représenter un être humain en une phrase, un événement de l'âme en une page, un paysage en un mot. Et je crois que ça nous rapproche aussi de cette idée que finalement, la forme brève, c'est pas si facile que ça. Enfin, c'est beaucoup plus facile d'écrire un très long roman fleuve, avec beaucoup de choses inutiles à jeter, que quelque chose qui est très concis, très bref, et qui est de qualité.
Je pense qu'en fait, il est plus difficile de faire simple, et il est plus simple de faire pseudo-complexe ou complexe.
Oui, c'est le principe de l'épure. Mmh. Et je crois qu'on avait parlé d'une citation de Madame de Sévigné, qui disait...
Oui,
donc je sais pas si quelqu'un là...
Enfin, j'ai juste regardé... Bon, du coup, je l'ai pas verbatim, mais où elle écrit à la fin d'une lettre à sa fille. Excusez-moi, je n'ai pas eu le loisir de faire court. Pas pour ranimer des vieux démons, mais on l'a tous vécu quand tu fais une disserte en 6 heures et que tu paniques à la fin parce qu'il te reste un quart d'heure pour finir les deux dernières parties. Et tu te mets à écrire des longues phrases qui veulent rien dire.
Mais du coup, est-ce que synthèse, tu la rapproches plus d'idées de... brièveté ou l'idée de faire quelque chose de court.
Je crois que c'est Jules Renard qui disait que finalement peu de gens savaient écrire des choses de brèves de qualité et qu'il supprimait des mots qui étaient nécessaires. Donc on peut très bien faire quelque chose de court en enlevant et en n'ayant plus qu'une espèce de carcasse vide.
Mais ça c'est assez intéressant parce que c'est une idée qui vient du classicisme en fait, ce qui se conçoit bien sinon se clairement. Et en fait je pense que ce qui est difficile c'est pas forcément de faire court parce que finalement faire court, enfin c'est comme faire des alexandrins, ce qu'il faut finalement c'est savoir compter. Après j'ai pas dit que ce sera un bel alexandrin mais et en fait c'est ça, c'est que ce qui est compliqué c'est de faire en fait clair. Plus c'est long, plus on a tendance à partir dans tous les sens, et Rabelais c'est un peu ça, c'est que ça va tellement dans tous les sens qu'au bout d'un moment on se demande mais où est l'action. Enfin là par exemple dans le chapitre que j'ai lu, Gargantua n'est pas cité une seule fois, et du coup c'est vrai que c'est désorientant pour le lecteur qui est habitué à, depuis le classicisme, à des choses voilà, avec une action qui va tout le temps au but, de se retrouver dans des choses complètement perdues.
Mais c'est post-moderne.
Il y a une jouissance aussi, je pense, de cette prolifération. Oui. Mais...
Et bien justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que certains écrivains qui sont pour le court font parfois des formes très longues. Par exemple, Flaubert, qui disait à Louise Collet le 4 octobre 1846 « L'imagination est plutôt une faculté qu'il faut, je crois, condenser pour lui donner de la force qu'étendre pour lui donner de la longueur. » Paillette d'or, légère comme de la paille et volatile comme de la poussière, mes idées ont plutôt besoin d'être mises à la presse que passées au laminoir. Flaubert, en fait, voilà, il est vraiment pour la concision de la pensée, etc. Mais bon, Madame Bovary, ça fait 400 pages, Bouvard et Pécuchet, c'est aussi très très long. C'est assez intéressant parce que ces contes, en fait, c'est des sortes de réductions de ces grandes œuvres. Si on retire Bouvard et Pécuchet, Madame Bovary, c'est un cœur simple. Salammbô, c'est justement dans la troisième nouvelle.
Mais pour venir à Rabelais, c'est... Le fait justement qu'il y ait surabondance et effectivement que ce soit totalement représentatif de l'esthétique baroque, lui-même il donne une clé de lecture et il la donne au tout début de son œuvre en disant qu'il faut chercher tout de même la substance lyrique moelle, tout en disant aussi qu'il ne faut pas non plus trop la chercher car on tombe dans une lecture d'ivrogne.
Il y a aussi des formes de romans contemporains qui reprennent un peu cette idée du roman très vaste, etc., où il faut chercher. On pourrait penser à Claude Simon où justement là tu as un point toutes les 5 pages. Mais en même temps, il est capable d'écrire des phrases, des assemblages de mots, d'une force incroyable.
C'est intéressant ce que tu dis parce que j'allais aborder la question de l'intérêt peut-être contemporain pour la forme brève et la brièveté. Bon, là, en réunion, on avait abordé le tweet, qui est quand même... Il y a des... Et donc peut-être même un intérêt de nos contemporains pour le discontinu, le marginal, le presque rien, ce qui dans Hamlet est nommé le monde qu'on trouve dans une coquille de noix. Donc finalement, c'est l'idée que dans la forme brève, on a une espèce de richesse qui est un peu comme un secret contenu qu'on doit extraire. Et peut-être qu'on est à l'âge d'une espèce de condensation et d'un goût pour ces presque rien.
Mais le tweet, c'est aussi que ça dure pas. Tu donnes en instantané ce que tu penses et ça se remplace. Les gens, ils sont genre « Ah, tel tweet, il est bien » et tout ça, mais ça bouge directement. Alors que Chantre d'Apollinaire, ça reste. Les gens, ils continuent de se demander « Mais qu'est-ce qu'il voulait dire ?» Qu'est-ce qu'il voulait faire ?
Justement, je pense que l'intérêt pour le cours, c'est aussi une sorte de préoccupation très poétique, en fait. Parce que ça vienne du haïku ou même de la micro-nouvelle, finalement, c'est tout ce qui est... c'est tout de Mallarmé, l'incantatoire, le vibratoire, etc. Et même pour les tweets, c'est plus poétique, en fait. Peut-être que, justement, la poésie, c'est plus ce qui cherche à évoquer, à créer, que le roman. Ça se nourrit plein de choses. Et donc, du coup, c'est peut-être ça aussi, une sorte de polarisation entre une sorte de brièveté qui serait évocatoire et une sorte de foisonnement qui serait là où, justement, il faudrait sélectionner et ce serait au lecteur de choisir sa piste de lecture.
Mais justement, le paradoxe qu'il y a avec le tweet, c'est que certes, il y a une brièveté dans la forme, mais au final, le tweet, en fait, c'est une surabondance. C'est le vrai paradoxe de ce médium. où en fait justement, comme tu disais Caroline, un tweet chasse l'autre, et du coup il n'y a rien qui reste véritablement.
Et les fables ça reste par contre.
Et les fables ça reste.
Parce que ça reste dans la mémoire, on les apprend enfant.
Et puis ouais, bah, le principe de la rime et aussi de titiller la mémoire. Donc effectivement, de faire que ça reste. Et puis en plus, nous, dans notre culture, on a aussi cet apprentissage très, très tôt de quelques fables dans les premiers livres notamment.
Et pour en finir avec les formes brèves, nous allons te renvoyer, cher auditeur, à un proverbe. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Et nous espérons que nos paroles, bien qu'elles s'envolent, resteront dans ton oreille pour un petit peu de temps encore.
C'en est fini des blagues douteuses, en virgule, de Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Célèbre le charme de la femme aimée dans chaque petit mouvement. Et ce, en toute platonitude. J'ai dit. Il y a des mots qu'on lit sans les voir, et d'autres qu'on ne penserait jamais à lire. Aux antipodes de la littérature, voici les lectures insolites. Je tiens entre mes mains le livre des extrêmes, qui date de 67, je pense. C'est un vieux truc que j'ai trouvé à la bibliothèque. Donc probablement que certains des records sont un petit peu dépassés. Donc je sais pas, choisissez-moi une catégorie. Donc on a l'être humain, le règne animal, le monde de la nature, l'univers, les édifices du monde.
Mais l'être humain, ouais.
Oui,
l'être humain.
Est-ce que vous voulez le plus grand, le plus petit, le plus lourd, le plus léger? La longévité.
Le plus petit.
Le plus petit. Le nain le plus petit ou la peuplade la plus petite?
La peuplade.
La peuplade, ok.
Que je sache où est-ce que je dois aller passer mes vacances pour me sentir grand.
Mais tu es grand, Will.
Ouais, mais...
Mégalomane.
Il y a des élèves de 3e qui me dépassent, ça me fait peur.
Bon, d'accord. Donc, je te conseille d'aller au Congo, car la plus petite race est celle des pygmées des forêts du Congo, parmi lesquelles les Bambouti et les Ituri battent les records de petitesse, avec une taille masculine moyenne de 1m42, bien que la moyenne de certains groupes soit seulement de 1m30.
Je pourrais alors payer en francs congolais, sachant qu'un franc congolais vaut à peu près 0,00079€.
Mais comment tu sais ça?
C'était préparé.
Non, c'est préparé. Tu peux aussi aller dans les collines du Limousin en France. Parce que apparemment, les Européens, ces Européens-là sont très petits à cause de déficience minérale. ou alors chez les...
nous pour ça, chers habitants du Limousin.
Peut-être que depuis 67, ils ont plus de déficience, j'en sais rien. Ou alors chez les Italiens du Sud qui vivent dans la cheville de la botte, dont la taille moyenne est de 1m58.
Ah ouais. C'est quand même. Ouais,
je suis en Italie. Ça date quand même.
Puis en plus, il sera au soleil.
Pas beaucoup plus petit que moi. En
fait.
Au Congo aussi, oui.
Ah, mais il y a des lions.
Ok, et alors, donc ça, c'est deuxième livre, tout petit, lui, par contre, que j'ai un jour acheté au supermarché. comme ça. Ça s'appelle Le petit livre de décodeur gestuel. Et hier soir, je l'ai ouvert au hasard. Et bon, c'est ta faute, Camille. Donc, ça, c'est sur la signification de l'utilisation des doigts de la main. Pouce gauche, c'est un rêveur ou une rêveuse qui réinvente la réalité à la mesure de ses illusions. Le pouce gauche est aussi le siège symbolique de la sensualité et du plaisir. Un enfant qui s'use de préférence son pouce gauche sera un adulte plus sensuel qu'ambitieux. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.
C'est ce qu'on peut faire avec un pouce. Hein.
Sinon, en information insolite, on peut aussi, pour aller dans les choses graveleuses, parler du pénis de Rasputin.
Ah oui.
Qui est conservé dans du formol et qui met en doute beaucoup de choses scientifiques parce qu'il serait énormément grand et ça aurait été un objet de vénération plus ou moins par quelques Russes.
Et c'est déjà la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Les blagues les meilleures sont les plus courtes. Si ces brèves lectures vous ont laissé sur votre faim, ou si vous avez été choqué par notre libertinage auditif, courez donc vous réfugier dans un petit livre, connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright Camille. Cette émission a été préparée tous ensemble, la playlist composée par Camille, Lola et moi, avec bien sûr l'expertise de Robin, dont la culture de chanteur mort de variété française et la dextérité à la table de mixage sont inégalées. Alors, voyons voir le t-shirt du jour que je découvre avec vous, chers auditeurs. c'est très vert. Un catcheur mexicain géant, ok. Qui détruit un bus. Au-dessus, il y a marqué Espectacular. Ensuite, Here he comes. El Anarcos. D'accord. Tonight Live Show, 25 Cents, and El Gran Stadium. Okay. Et il y a un chien qui tombe du bus. D'accord. Donc c'est un catcheur mexicain géant. Un cochon ? D'accord. Et aussi un piaf. C'est fascinant. Merci à Lola de nous avoir graciés de sa présence. Et comme la forme courte est à l'honneur, mes recommandations se tournent vers tes playlists pour Ondes Sonores, ainsi que vers Il regarde le monde tourner. Prochaine émission probablement dans 2 semaines, on verra avec les vacances. Le thème sera à l'envers. Pour Ferrer l'animal, une trouvaille originale de Robin, Alexis HK nous conte l'histoire de Gaspard, le plus grand des nains volants. Et enfin, le dernier paragraphe de la bibliothèque de Babel, de Borges, pour vous catapulter directement dans l'infini. Ça fait peut-être ouverture obligatoire dans la conclusion, mais c'est diablement beau quand même. Camille à la lecture, traduction de Ibarra. L'histoire de Gaspard, le nain qui voulait bien qu'on le lance. Oyez sans rire ni pleurer, braves gens. L'histoire de Gaspard, le plus grand des nains volants. Peut-être suis-je égaré par la vieillesse et la crainte, mais je soupçonne que l'espèce humaine, la seule qui soit, est près de s'éteindre, tandis que la bibliothèque se perpétuera. Éclairée, solitaire, infinie, parfaitement immobile, armée de volumes précieux, inutiles, incorruptible, secrète. Je viens d'écrire « infini ». Je n'ai pas intercalé cet adjectif par entraînement rhétorique. Je dis qu'il n'est pas illogique de penser que le monde est infini. Le juger limité, c'est postuler qu'en quelque endroit reculé, les couloirs, les escaliers, les hexagones peuvent disparaître, ce qui est inconcevable, absurde. Imaginer sans limite, c'est oublier que n'est point sans limite le nombre des livres possibles. Antique problème où j'insinue cette solution. La bibliothèque est illimitée et périodique. S'il y avait un voyageur éternel pour la traverser en un sens quelconque, les siècles finiraient par lui apprendre que les mêmes volumes se répètent toujours dans le même désordre, qui répété deviendrait un ordre. L'ordre. Ma solitude se console à cet élégant espoir. 1941, Mar del Plata.